quartier de la Madeleine à Albi, rue Porta, entre deux bâtiments imposants, se trouve un passage fermé d'un portillon grinçant. Le petit chemin débouche sur une terrasse de verdure et de plantes. Parmi les végétaux, trône un canon et une ancre de bateau.
Radio Albigès, je viens voir...
Vous avez rendez-vous?
Oui.
Avec qui?
Le président de l'association.
D'accord, il va... Je ne savais pas, mais il va arriver alors, hein. Okay. Attendez, je faisais un petit peu de... Parce que je crois que les petits oiseaux me mettent de...
Ah oui?
De la... Ben oui, ils aiment.
Jeudi 7 juillet 2022, j'ai rendez-vous avec Jean-Marie Pestel, président de l'association La Pérouse Albi France. Et ça tombe bien, nous sommes justement au musée La Pérouse.
Alors dans la salle du bar, on trouve toutes les étapes du voyage. Et voilà, et on peut suivre, donc en suivant les flèches rouges, on suit chronologiquement le voyage. Et ensuite les visiteurs remontent, et en suivant les autres flèches, ils arrivent jusqu'à la fin du voyage avec les recherches et les objets retrouvés sur le lieu du naufrage. Le temps qu'il arrive, voilà, faites le tour.
Ok, merci.
Profitez-en. Je vous appelle quand il est là. Hein.
Ok.
Versailles, juin 1784. Dans sa bibliothèque, Louis XVI prépare la plus grande aventure de l'histoire maritime. Passionné de science, de géographie et de cartographie, il veut que l'on rivalise avec le plus grand explorateur de l'époque, le célèbre capitaine Cook. Les instructions du roi sont claires, l'expédition doit compléter les connaissances en matière d'astronomie, de géographie, de navigation, d'histoire naturelle et d'anthropologie. L'Atlantique, le Pacifique Sud, le Pacifique Nord. Louis XVI doit maintenant choisir sa figure de proue, capable de mener tous ses hommes à travers les océans, son double peut-être. Entouré de son ministre de la Marine et du directeur des ports et arsenaux, il choisit un brillant officier de 43 ans. Ses campagnes, ses victoires, son humanité et sa noblesse devaient lui valoir le respect et l'admiration de tous, y compris des plus grands ennemis de la France, les Anglais. Pour Louis XVI, Jean-François de Gallo de La Pérouse est l'homme de la situation.
L'association, avant le musée, a été créée par le docteur Amalric, l'association La Pérouse, Albi. Et ensuite, sous l'impulsion du docteur Amalric, la municipalité, à l'époque de M. Castel, a créé ce musée en concomitance avec celui qui s'est fait à Brunswick, à Sydney, si vous préférez. C'était à peu près en même temps, hein, comme les deux villes sont jumelées depuis longtemps. Voilà, ça s'est fait à cette époque-là. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans, bientôt 40 ans que l'association anime ce musée. Et
fait des ponts, j'imagine, à l'étranger aussi.
Oui, c'est on est très impliqué à l'étranger. On a des monuments au Japon, entre le Japon et la Russie. Parce que là, il y a un détroit qui s'appelle sur toutes les cartes du monde le détroit de La Pérouse. Donc on a créé, il y a maintenant 13 ans, ça va faire 14, un monument à la mémoire de La Pérouse. Les Japonais ont consacré une partie de leur territoire, c'est suffisamment rare pour être noté. Et de l'autre côté, pareil, à Sakhaline. Et on célèbre ça. Donc en 2018, on a fêté, et j'y suis allé fêter le 11e anniversaire de ce monument-là. Et l'année dernière, il était temps, en tant que descendant et président de l'association La Pérouse, j'ai nagé dans le détroit qui sépare donc Sakhaline de Wakanai, c'est ce qu'on appelle de la nage en eau froide. Et on a fait ça avec plusieurs équipes du monde. Et il n'y a que La Pérouse qui peut regrouper les Coréens, les Russes et les Japonais à cet endroit-là. Il était temps, parce que là, ça devient un peu compliqué. Voilà à peu près pour ce qui se passe. Pour un exemple, il y a aussi une association La Pérouse. Moi, je m'appelle Jean-Marie Pestel. Je rajoute de temps en temps de La Pérouse. En fait, je suis descendant par la dernière sœur de La Pérouse. Et je suis devenu président de l'association quand ma mère, qui l'était, m'a demandé de prendre la suite, j'allais dire pour des raisons d'âge. Et on a essayé de, et on est parvenu à continuer à animer ce musée en essayant de développer plus, un peu plus, de plus en plus à l'international et aussi sur l'animation locale avec, par le biais de conférences ou de voyages, et on a souvent été invités. Donc voilà, donc moi j'ai eu la chance de vivre dans la maison natale de la Pérouse jusqu'en 2018. La famille a choisi de vendre cette maison parce qu'il n'y avait pas les moyens de continuer à l'entretenir. Et ma maman, qui avait été atteinte par la limite d'âge, ne pouvait plus assumer cette charge toute seule. Mais nous étions à la maison, le château d'Hugo, donc, qui est sur la commune d'Albi, est resté dans la famille pendant plus de 500 ans. Ici, dans ce musée, qui est un musée, on va dire, à l'ancienne, mais qui plaît beaucoup, on retrace la vie de la Pérouse et son voyage. Une grande partie des pièces appartiennent à l'association La Pérouse, les autres ont été fournies par l'association Salomon et la municipalité d'Albi. Voilà. Et en 2018, pour des raisons de difficulté de gestion, on a rendu la gestion
à la
municipalité, qui a toujours été propriétaire des murs. Mais la gestion a été confiée à l'association La Pérouse. Depuis, rien n'a changé, hein, c'est toujours la même chose. Mais voilà, évidemment, on ne voit pas la radio, mais c'est un lieu typiquement tarnais. C'était ici, vous saviez qu'il y avait les minoteries, il y avait... Et ce lieu a été récupéré, il était dans un état pitoyable, ça a été très très bien restauré, donc c'est tout en briques, c'est typiquement, typiquement d'Occitanie.
Vous, votre histoire avec ce nom, La Pérouse, à quel âge vous le découvrez, et vous découvrez que vous êtes un des descendants de... Et qui est ce personnage ?
C'est une bonne question, c'est très amusant. À l'époque, il y avait, quand j'étais en primaire, il y avait des cahiers de brouillon sur lesquels il y avait une barre derrière, il y avait marqué La Pérouse. Et je disais à mes amis ou mes collègues de classe, ça c'était mon grand-oncle. Et les autres me rigolaient au nez en me disant, eh oui, moi je suis le pape. Donc je me suis calmé, je ne me suis plus beaucoup intéressé à La Pérouse. Et j'ai retrouvé ça quand je suis venu au Gau. Je savais que c'était la maison de La Pérouse, mais je ne m'y intéressais pas particulièrement. Mais quand ma mère a commencé à faire venir, avec le docteur Amalric, tous les gens qui se sont intéressés à La Pérouse, et donc Haroun Taziev, à notre époque, Haroun Taziev, c'était une légende, et donc j'ai rencontré ces choses-là, et donc ça a créé cette émotion qui m'a plongé dans l'histoire de La Pérouse et qui m'a fait m'y intéresser. Mais on va dire que ça, c'est venu sur le tard, voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, on a un peu de tout, on a des images de marine, on a aussi beaucoup d'extraits de textes, parce que la caractéristique essentielle, qui est importante à rappeler, c'est le comportement humaniste de La Pérouse. On est dans le siècle des Lumières, et le comportement de La Pérouse a été remarquable, et c'est pour ça qu'il est singulier, il n'y a pas d'autre exemple. Il n'a jamais ouvert de conflit, et même quand une partie de son équipage a été lapidée par les Indiens pour des questions de mauvaise compréhension, La Pérouse a insisté pour dire surtout on riposte pas, ce qui a été assez compliqué à gérer, mais il l'a très très bien géré, et il était remarquablement aimé par ses hommes. Il était donc humaniste à l'intérieur et à l'extérieur. Et il ne se gênait pas pour s'offusquer du comportement des nobles de l'époque ou du clergé, il l'a dit à Conception, sur la façon assez légère qu'il avait d'aller se confronter aux citoyens, je dirais plutôt aux citoyennes de là-bas. C'est un peu ce qu'on appelle être le seul maître à bord, une fois qu'on est parti. Il était respectueux, c'était un discipliné, mais il s'offusquait du comportement léger, on va dire ça comme ça, des officiers ou des missionnaires, et il ne se gênait pas pour le dire, il l'a même écrit. Quoique les Français fussent les premiers qui, dans ces derniers temps, eussent abordé sur l'île Mouet, je ne crus pas devoir en prendre possession au nom du roi. Les usages des Européens sont, à cet égard, trop complètement ridicules. Les philosophes doivent gémir sans doute de voir que des hommes, par cela qu'ils ont des canons et des baïonnettes, comptent pour rien 60 000 de leurs semblables. Que, sans respect pour leurs droits les plus sacrés, ils regardent comme un objet de conquête une terre que ses habitants ont arrosée de leur sueur et qui, depuis tant de siècles, sert de tambour à leurs ancêtres. Ces peuples ont heureusement été connus à une époque où la religion ne servait plus de prétexte aux violences et à la cupidité. Les navigateurs modernes n'ont pour objet, en décrivant les mœurs des peuples nouveaux, que de compléter l'histoire de l'homme. Leur navigation doit achever la reconnaissance du globe et les lumières qu'ils cherchent à répandre ont pour but unique de rendre plus heureux les insulaires qu'ils visitent et d'augmenter leurs moyens de subsistance. La Pérouse, le 30 mai 1786.
Et pour continuer sur le nom de la Pérouse, c'est une particule, c'est ça? Parce que la famille...
Il y a deux choses. Il n'y a pas de descendants de la Pérouse. Officiellement, il n'y a pas de nom la Pérouse qui suivent, puisque la Pérouse, qui était le seul à porter le nom, je rappelle que son père s'appelait Gallo, de Gallo. La particule la Pérouse a été ajoutée à la Pérouse parce qu'on lui a, son père lui a donné une terre qui s'appelait la Pérouse, qui est ici, hein, à côté, pour qu'il ait les revenus pour payer l'école de la marine à Brest. Donc le seul qui s'appelle la Pérouse, c'est lui, son père s'appelle Victor de Gallo. Et lui n'a signé plus que de la Pérouse à la fin de sa vie. Et les deux familles ont pris, nous c'était Barthès, et les noms. Et Louis-Philippe a donné l'autorisation de reprendre cette particule. L'une des familles l'a gardée officiellement et la nôtre ne l'a pas gardée. Au niveau réalité des faits, c'est la même chose, mais il y en a qui officiellement ont le droit de pouvoir s'appeler la Pérouse et d'autres qui peuvent l'utiliser, mais ce n'est pas un droit canon. On va dire ça comme ça.
La Pérouse, les Albigeois et les Tarnais connaissent peut-être, s'ils ne connaissent pas le personnage, ils connaissent au moins des noms, parce qu'il a donné ce nom à des écoles, à des quartiers. Il y a une statue aussi qui est là.
Oui, ça a été assez long. Souvent, c'est classique. Hein. c'est pas les Albigeois qui connaissent le mieux la Pérouse. Il se trouve qu'il y a un travail qui a été fait. Mieux que faire se peut, et très récemment la municipalité d'Albi a réhabilité cette statue remarquablement bien. Il était temps, mais c'est super, c'est bien, c'est l'important, c'est que ça a été fait, donc ça c'est sympa. Il y a ce musée qui, grâce à l'association, a essayé de faire vivre, et maintenant la mairie reprend ça en main et on en est vraiment ravis, hein. C'était le but, hein. Ça fait 40 ans que j'allais dire que on bataille pour pouvoir faire reconnaître cette image de la Pérouse. On a un musée Toulouse-Lautrec magnifique et parfois on oublie un peu la Pérouse. C'est, au niveau international, c'est immense. Quand on va à l'étranger, on se rend compte de l'aura de la Pérouse. Et je pense que c'est bien qu'on puisse effectivement faire revivre et faire rayonner cette image-là, parce qu'elle n'est que positive. Donc, dans ce musée-là, et quand on anime les visites, en particulier avec les scolaires, c'est important, on insiste aussi sur ce point-là. Et on est ici, là où on ne le voit pas à la radio, on est ici devant une armoire où il y a tous les instruments de mesure qu'il y avait à l'époque. Et quand je suis avec
les... Oui, pas le GPS.
Voilà, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Quand je me mets avec les enfants, je leur dis, quand vous partez en vacances, vous allez partir en vacances, c'est l'époque, qu'est-ce qu'au fond vos parents, maman ou papa? Et tout de suite, en réponse, GPS. Alors je résume rapidement en disant, l'armoire que vous avez devant vous, dans laquelle il y a des horloges, des sextants, des règles, un appareil qui s'appelle un renard, enfin tous ces appareils qui servaient à mesurer la position, ça représente le GPS de l'époque. Sauf okay. qu'ils avaient pour se repérer que les étoiles. Et les enfants tout de suite sont passionnés. Et pourtant, ce sont des vrais geeks. Mais ça les amuse beaucoup et ça les intéresse. Donc voilà, on refait on a un peu un musée à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses. On est maintenant assez un peu à l'étroit. Mais voilà, et on a en même temps la partie familiale de la Pérouse, puisque il s'est marié avec une roturière, c'est ce qu'on disait, son père n'avait pas accepté ça, et il a mis 10 ans à avoir à ce que son père accepte, parce que le ministre de la Marine l'avait accepté. Son père a été contraint, mais il ne pouvait pas s'émanciper tant qu'il n'y avait pas l'autorisation parentale à l'époque. Donc voilà, cette histoire-là est aussi racontée ici sous forme de panneau. Et ça donne toute l'image de la Pérouse. Il a toujours été d'une grande fidélité et il l'a commencé en attendant pendant 10 ans de pouvoir se marier avec Éléonore Boudou, qui n'était pas le choix de son père. À l'époque, il faut se rappeler que les nobles choisissaient pour les enfants, et même en jeune âge.
À travers ce musée, ce n'est pas seulement un personnage qu'on découvre, c'est tout un pan d'histoire.
On peut le dire comme ça, parce qu'on oublie, on parle beaucoup de la Pérouse, mais on oublie un peu de parler de Louis XVI. Il a été très important, c'est lui qui a commandé le voyage, et c'était vraiment le siècle des Lumières. C'est à l'époque où de tous les philosophes que vous pouvez imaginer, et vraiment la Pérouse était ce relais-là dans son comportement. Hein. Et oui, effectivement, c'est vraiment un pan d'histoire. C'est quand on voit aujourd'hui, dans les conflits dans lesquels on est, il était vraiment en avance sur son temps. Je dirais même qu'il serait important de relire un petit peu son comportement et sa façon d'être. Il a pu être choqué par des comportements, mais il s'est jamais confronté. Il a décrit et il a toujours respecté et les territoires et les hommes. Et c'est suffisamment, c'est exceptionnel, quoi, je veux dire, à cette époque-là. Je ne vais pas vous faire un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, ça serait trop violent. Mais voilà, donc effectivement, c'est une image absolument fantastique. Et je vous dis, à chaque fois qu'on va à l'étranger, là où la Pérouse a fait escale ou s'est posée, à chaque fois, cette image-là, on n'a aucun problème avec les autochtones. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde quand on parle de la Pérouse. Parce que pourquoi il y a une association La Pérouse-Alaska, et que pourtant, quand on lit les écrits de La Pérouse, il ne les avait pas trouvés très très bien, mais il les a respectés quand on était sur le lieu. Après, on peut comprendre qu'en fonction des civilisations de chacun, on puisse être choqué par certains comportements, mais il n'a jamais, s'est jamais confronté aux autochtones, il a toujours respecté ces personnes-là, et ben aujourd'hui, ça nous est bien rendu.
Victor de Gallo, ça c'était son père. Ce tableau est important parce que celui-là est très connu, c'est une reproduction, on n'a pas les originaux. On voit donc Louis XVI, la Pérouse, qui est en face là à gauche, le ministre de la Marine, et les deux frères Laborde. Les frères Laborde ont été les enfants de celui qui a financé le voyage, parce qu'il y avait des problèmes d'argent.
Et donc c'est un tour de la carte du monde, voilà, de la carte du monde de l'époque.
C'est les instructions pour le voyage. On va revenir ici parce que c'est important. Donc vous avez ici Éléonore Boudou. Lui, il a fait l'école des gardes de la marine à Brest. Il est parti à l'âge de 15 ans. Donc d'où cette propriété à Fauche, qui s'appelle la Pérouse. La Pérouse en occitan, ça veut dire la pierre, il y en a partout. Hein. Et voilà, donc Éléonore. Il est tombé amoureux au fur et à mesure de ses voyages qu'on l'avait envoyé faire. Il allait du côté de l'île Maurice à l'époque, qui était française, et donc il s'appelait l'île de France. Et il a rencontré
Est-ce qu'on peut dire que, puisqu'il écrit beaucoup de ce qu'il vit, il sent qu'il fait partie de l'histoire et qu'il fait l'histoire?
Je ne sais pas si on peut dire qu'il fait l'histoire. Il y a contribué, ça c'est certain. C'était pas forcément un grand littéraire, mais il écrivait par nécessité. Il fallait qu'il fasse son journal de bord. Et comme tous les officiers de la Royale, comme on dit à l'époque, il se devait de faire les comptes rendus et son journal de bord, etc. Donc, et il aimait, il avait une certaine émotivité, et ça se sent dans ses textes. C'est pas ce qui est le plus désagréable. Et son comportement respire aussi bien par les témoignages qu'on en a des gens de l'époque, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ou même de ses ennemis, la prise de la baie d'Hudson, qu'on ne va pas développer ici, qui a été le point qui a déclenché pour Louis XVI le choix de la Pérouse, et l'image de ce comportement absolument remarquable, quand il a partagé avec ses ennemis et les autochtones, j'insiste bien, ses vivres et ses munitions alors qu'il était presque à court pour lui revenir après en France, c'est un comportement unique. Voilà. Et il a été apprécié pour ça. Quand il fallait se battre, il se battait. Il l'a fait remarquablement bien. Je rappelle qu'il a fait partie des officiers qui ont permis à Lafayette de rentrer. Hein. Il était dans l'expédition. Hein. Et donc, sur l'Astrée, il y avait une autre bateau qui a été reconstruit qui s'appelait l'Hermione, sur lequel était Lafayette. Mais sur les flancs, il y avait un commandant ou un capitaine qui s'appelait Lapérouse et qui lui livrait bataille pour que Lafayette puisse passer. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'était un vrai marin respectueux et en même temps, il avait son libre arbitre et son respect de la personne humaine.
Vous écoutez une interview avec Jean-Marie Pestel, président de l'association Lapérouse Albi France. Une interview enregistrée au musée Lapérouse à Albi le 7 juillet 2022.
Dans l'association, est-ce que vous êtes entouré d'historiens aussi, de scientifiques, de gens qui travaillent sur des objets, des choses comme ça ?
Il y en a eu, il y en a moins, il y a des gens qui se sont intéressés et il y a toujours à l'intérieur de l'association des gens qui sont passionnés. On a des gens qui ont vécu en Australie, qui ont fait des conférences et on est en relation étroite, que ce soit avec le musée de la Marine, avec Brest aussi, beaucoup. Brest a beaucoup fait et fait beaucoup pour Lapérouse, donc on échange avec ces gens-là, oui, on anime régulièrement des conférences. L'association Lapérouse Alaska, par exemple, elle a un rythme de conférences tous les mois, et on est en train, j'allais dire, grâce, c'est un peu paradoxal, grâce à la période Covid, on s'est mis à faire beaucoup de conférences en ligne. Et du coup, on a les étrangers qui participent. Mais là, récemment, on peut lire ça dans notre journal de bord, un membre de l'ambassade de France aux États-Unis a été à Hawaï et a été un peu choqué de voir qu'il y avait une stèle qui n'était pas mise en valeur. Et l'association a sollicité tous ses contacts aux États-Unis. Et là, on est en train de remettre en valeur d'une façon grandiose avec des gens qui vont financer cette stèle, et ça pose aucun problème, j'insiste, parce que c'est pas toujours le cas avec les autochtones. Parce que maintenant, vous savez, c'est pareil en Australie, on a des chartes parce que ça n'a pas toujours été respecté. Mais quand on parle de Lapérouse, ça leur pose aucun problème. On le fait avec leur collaboration, on le fait en leur demandant la permission, comme Lapérouse faisait. À la limite, on fait comme lui. Et ça se passe très très bien. Donc il va y avoir ce monument, c'est pas une grande chose, c'est une stèle, mais qui va être remise en valeur avec un jardin autour. Et voilà, avec l'association Lapérouse et le LIN, qui est le Lapérouse International Network, qui sert à relier toutes les associations qui sont et qui travaillent pour Lapérouse à travers le monde, et bien on fait cette action-là. Donc voilà, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on continue. On arrive ici à ce qu'on appelle le port des Français. Là, il y a eu une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une passe qu'on va voir là-bas, et qui était...
Donc là, on n'est pas loin de l'Alaska, c'est ça ?
On est en Alaska.
Non, c'est ça.
On est en Alaska, absolument. Mmh. Tout le monde, à l'époque, cherchait le passage du Nord-Ouest. On pensait qu'il y avait un passage. Là, il est tombé sur des glaciers, c'est absolument magnifique. Hein. C'est des glaciers comme on a dans les Alpes, enfin, comme on a encore, mais qui tombent dans l'eau, au niveau zéro. Hein. Donc c'est somptueux. Et en fait, c'était juste une passe, et au fond, il y avait des glaciers. Je vous laisse imaginer cette passe qu'on voit là-bas. On imagine un peu là-bas, vous voyez, c'est en noir et blanc, cette espèce grande étendue d'eau fixe, et en face vous avez le plus grand océan du monde, le Pacifique. Je vous laisse imaginer la passe, les troubles qu'il y avait. Et il a eu de la chance pour rentrer, il s'est rendu compte, ça c'est de l'angle qui était assez mouvreux, qui lui a été sans trop réfléchir, c'est passé. Et il s'est rendu compte qu'il a surfé en fait, avec des bateaux comme ça. Et pour ressortir, il a dit on joue pas, c'était resté un mois, c'était reposé, c'était réalimenté. Il a laissé un monsieur qui s'appelle De Lesseps, c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais j'y reviendrai après, en lui disant, s'il nous arrive quelque chose, il faut que tout ce qu'on ait récolté jusqu'à aujourd'hui puisse arriver en France. Il a été bien inspiré. C'est comme ça qu'on a ces choses-là. Et De Lesseps a fait tout ce voyage-là à pied.
Dans le continent.
À pied, traîneau, oui. Carrosse, mais à pied, par la terre, pour arriver en France. Un an et un mois après. Et quand il est arrivé, il était surpris que Lapérouse ne soit pas là, et pour cause. Voilà. Barthélemy de Lesseps est l'oncle de Ferdinand qui construit le canal de Suez. Important de savoir ça. Voilà. Donc ça, c'était important. C'est grâce à ça qu'on a tout ce qui avait pu être fait, plus les journaux de bord qui ont été partagés. Une fois qu'il a fait ça...
Premier navigateur européen à pénétrer dans les parages situés entre la Chine et le Japon, Lapérouse découvre le détroit entre Yesso, ancien nom de l'île d'Hokkaido au Japon, et le sud des îles Sakhaline, en Russie, qui porte son nom, le détroit de Lapérouse, avant de faire escale le 7 septembre dans la baie d'Avacha, Taria, sur la côte de la péninsule Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe. C'est là qu'il reçoit une commission de chef d'escadre arrivé de France. L'interprète, Jean-Baptiste Barthélémy de Lesseps, débarque avec les rapports et les cartes établies par son chef pour regagner la France en traversant la Sibérie. Lapérouse se dirige alors vers le Pacifique central, débarque le 9 décembre à Mauna dans les îles Samoa. Il continue sa route vers les îles des Amis, aux îles Tonga, puis arrive le 26 janvier 1788 à Botany Bay en Australie. Il repart vers le 15 mars en direction du nord-est. Prises dans un cyclone, les frégates se brisent sur les récifs coralliens situés aux alentours de l'archipel des îles Santa Cruz au milieu du mois de juin 1788.
Merci à Jean-Marie Pestel, président de l'association Lapérouse Albi France, rencontré le 7 juillet 2022 au musée Lapérouse à Albi. Merci à Armel pour l'accueil. Le musée Lapérouse étant un musée municipal, l'usage aurait été que je contacte la mairie pour prendre rendez-vous. En tant que média, toute communication doit en effet passer par la chargée de communication, justement, de la mairie d'Albi. Mais tant pis pour l'usage, l'association Lapérouse Albi France, sans doute comme Lapérouse lui-même, tient à sa liberté de parole, et c'est très bien comme ça. Pour visiter le musée Lapérouse, c'est donc à l'heure où je vous parle, en juillet 2022 en tout cas, au 41 rue Porta à Albi, près du Pont Vieux, à côté du Tarn, dans le quartier de la Madeleine. Retrouvez aussi pas mal d'informations sur Lapérouse et l'association sur le site www.lapérouse-france.org. Merci à l'émission Thalassa pour les extraits du documentaire « L'expédition Lapérouse au-delà d'un naufrage » d'Yves Bourgeois. Et merci à Dominica pour la musique de fin. Alicias.
On l'entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers. Lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Finissait pas comme la vie lointaine qu'on aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines, l'océan. Thank you. si ma ligne de vie venait à se casser. J'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie, ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait. L'océan.